C'est le de vrai un mytho de l'invité explosif.
Alors je donne trois affirmations concernant notre invité Virginie de Clausade. Sur ces trois affirmations, un mytho s'y est glissé, c'est le de vrai un mytho. On répond en tour de table et puis Virginie nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Virginie a évité un crash d'avion.
Pardon, j'ai eu peur d'un coup.
Quand je vous dis d'en faire des tonnes. Affirmation 2, Virginie a échappé à un tueur en série. Affirmation 3, Virginie a fait de la prison aux États-Unis.
Ah, mais c'est de pire en pire.
Allez, je commence par Léa.
Alors attends, il y a l'accident d'avion.
Oui, le tueur en série.
Le tueur en série.
Et la prison aux États-Unis.
Ah mon Dieu, tout est horrible.
Quel est le mytho ? Il y a un mytho.
Il y a un mytho. Putain, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont vrais.
Oui.
Ah, j'ai peur. Allez, je vais. Alors, la prison aux États-Unis, c'est hyper simple de faire de la prison aux États-Unis. Il suffit de faire un doigt. Je vais dire, allez, le tueur en série. Ça
le
me fait trop peur, ça.
Bien.
C'est pas possible. C'est faux.
Arnaud, tu dirais quoi ? Lequel ?
Moi, je valide le tueur en série parce qu'elle a quand même survécu aux enfants de la télé.
C'était très facile de survivre aux enfants de la télé.
Non, je dirais la première.
Elle a évité un crash d'avion. Tu penses que c'est le mytho ?
Oui, je pense que c'est le mytho.
Flavien,
c'est forcément la prison, la fausse anecdote. Les États-Unis, c'est un pays magnifique.
Le pays des droits de l'homme et de la femme.
Et de la femme. Et de l'avortement. Alors, quel est le mytho ?
Le serial killer.
Non, tu n'as pas échappé à un serial killer, mais tu es fan.
En tout cas,
tu ne le sais pas.
En tout cas, on le sait pas.
En tout cas, tu le sais pas.
S'il y en avait un qui était sur le coup, voilà, il a foiré, lamentablement.
Il sait où tu es actuellement. Mais tu es fan de tueurs en série.
Je suis fan, maintenant, honnêtement, moi, hein, j'écris pas des lettres pour les rencontrer en prison et les épouser après. Calmons-nous. Mais non, mon adolescence, oui, j'ai fréquenté pas du tout, mais littérairement.
On va y arriver, tout doucement. Il y a aucun mytho, en fait.
Littérairement, je me suis tapé. J'ai passion serial killer, mais bien avant Mindhunter et l'autre là, comment il s'appelle, celui qui a des lunettes
Dahmer.
Géniales,
Dahmer.
Bien avant ça, c'était super. Et alors, c'était les livres. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que c'était les livres de Stéphane Bourgoin, qui était quand même considéré comme un putain de spécialiste. Et le mec, c'est pas secret. On a appris il y a 3 ans que c'était que mytho.
Pendant 30 ans, il a sorti.
Il a construit sa carrière sur l'idée que sa petite amie s'était fait tuer par Ted Bundy, ce qui donnait une sorte de légitimité.
Pas du tout.
C'est énorme.
Et pas du tout. Et donc, il a pris les interviews des autres gars en faisant croire que c'était lui. Puis petit à petit, comme il s'est fait passer pour un spécialiste, bah, il a fini par le devenir et finalement les rencontrer. Mais donc, il a dit, bah oui, j'ai menti. Et puis tout le monde a dit, bah c'est pas grave, comme il n'y en a pas d'autres, on va te garder toi. Et donc voilà, le mec s'est passé crème. Stéphane Bourgoin, je l'adore.
Bah,
très bon bouquin. Non, mais il est calé. Mais l'histoire est un peu particulière.
C'est vrai. Alors, raconte-nous comment tu as évité un vol qui s'est
Bah, ça va avec la fois où j'ai fait de la prison.
Voilà. Alors, vas-y, raconte.
C'était une bonne semaine dans ma vie, ça.
Tout va ensemble.
Je m'arrange pour avoir une histoire par an, une vraie bonne histoire par an. 42 ans, 42 histoires. Donc ça, c'était celle de mes 16 ans. Je pars à New York. Tout le monde me dit, si tu ne payes pas le métro, Virginie, tu vas en prison. Pourquoi je ne paierais pas le métro ?
Tu t'es dit, challenge accepted.
Voilà. Et donc là, bon, après, je, pour plein de raisons diverses et variées, je tombe amoureuse d'un garçon qui habite dans la rue, qui a mon âge, blablabla, très... Très histoire d'amour à l'américaine, quoi. Ouais. Je lui dis mon fantasme. Bref. Et donc, je ne sais pas pourquoi, arrivé dans le métro, je lui dis, bah, écoute, comme tu es SDF et que tu n'as pas de sous, c'est littéral, il habitait dans Bleecker Street. Viens, passe en métro avec moi, je t'invite à dîner plus haut. Et là, les flics nous ont arrêtés. Donc, on est parti en prison. Et là, mais de la vraie prison. Donc, j'ai passé genre quasiment 72 heures en tout à New York.
Tu avais 16 ans ?
Ouais.
Wow.
Dans une salle commune avec plein de gonzesses qui arrivaient, qui étaient tous des tapins de downtown, qui elle avait l'habitude. Donc, j'étais là, j'essayais d'établir des liens. Non, parce que j'étais pas très flippée, j'étais déjà en train de me dire, putain, moi j'étais dans un BU avec que des bonnes sœurs. J'étais en train de me dire, ça va faire une histoire à raconter pour les copines à la rentrée. Et donc, on était dans ce. Donc voilà, il y avait plein de filles qui passaient, qui se faisait arrêter parce qu'elle faisait le tapin et qui ressortait. Donc j'étais là, mais c'est quand même scandaleux, vous laissez une jeune fille de 16 ans de bonne famille chez les bonnes sœurs en prison alors que les putes vont et viennent. En fait, ils attendaient mon traducteur. Donc, donc on était dans cette tôle avec pendant H24 du soap qui passait, la lumière qui s'éteignait jamais, des cafards énormes et une meuf qui arrivait. Donc toutes les meufs se shootaient avant. Bon, je sais pas, apparemment il y a une routine quand même dans l'arrestation et tout ça quand tu travailles dans la rue. Et donc elle connaissait le merdier, donc... Elle se shootait avant de rentrer en tôle, comme ça elles étaient défoncées jusqu'au moment de sortir. Oui. Efficace. D'accord. efficace.
Mais toi, t'avais pas le type.
Ouais, j'avais pas le type, c'était la première fois. Donc, je suis là. Non, puis comme c'était la première fois, je voulais quand même voir, parce que le projet, c'était pas d'y retourner non plus. C'était de garder un souvenir assez fort pour que ça reste une anecdote que je puisse confier là, tu vois, sans non plus avoir une vie complètement déstructurée, traumatisée par l'expérience. Et donc là, il y a quand même une meuf qui est arrivée. Requiem for a Dream n'était pas encore sortie, mais elle avait le genou de Requiem for a Dream. C'est-à-dire qu'elle était à l'héro, mais genre à l'ancienne, on a l'impression d'être en 73. Et apparemment, elle shootait au même endroit. Et donc, j'ai vu comme ça une rotule qui essayait de s'enfuir de la chambre, quoi. Donc, c'était assez sympathique. Et quand je suis arrivée devant le traducteur, eh ben, il avait un accent terrible et je ne comprenais pas ce qu'il disait en français.
Donc, ils t'ont dit « cassez-vous maintenant ».
Donc, j'ai dû parler avec l'avocat en direct et passer devant le juge. Et quand même, 6 mois d'interdiction d'entrer sur le territoire. Ce qui n'était pas très grave parce qu'ils m'ont enregistré sous un faux nom.
Ah.
Voilà, parce que non pas que j'ai donné un faux nom, ça c'est le cherry on the cake. Je suis vieille, donc je suis sortie quand dans ma jeunesse, il y avait des cartes d'identité en carton.
Oui.
Vous vous souvenez de ça? Non, vous connaissez au moins dans l'image. Bon, bah, vous faites Google Images, carte d'identité des boomers.
Oui, voilà. Elle était beige un peu.
Voilà, ouais, beige en carton. Et donc, moi, un soir qui me fait yesh dans ma chambre, je me dis, tiens, elle est belle cette carte d'identité. Et donc, je la brûle pour faire un parchemin.
C'est de pire en pire cette histoire.
Donc je brûle pas les numéros, mais quand même ma carte d'identité en carton, elle ressemble à un parchemin. Et donc quand je me fais arrêter par les flics, je donne, tu pars, ma carte d'identité à New York. Ils sont bien contents. Et donc comme je suis française et qu'ils voient le parchemin, ils se disent mais ils sont complètement fous, c'est français. Mais il n'y a pas un moment, ils se disent non, ils se disent oui c'est possible quoi. Les Français ils ont un parchemin pour voyager, c'est normal.
Nous a fait honte. Des Gaulois.
On nous a fait honte à l'étranger.
Et donc moi j'ai une ribambelle de prénoms là. Donc je m'appelle Virginie Léon Monique Blanche de Clausade. Et sur la carte d'identité, il y avait marqué Virginie Léon Monique. En dessous, Blanche, des Américains. Panique face au papier, ils m'ont appelée Virginie Monique. Il y a une Virginie Monique qui a sans doute beaucoup de problèmes actuellement, liés à moi. Et voilà. C'était une bonne histoire.
On la salue.
Et donc,
comment on arrive à ce crash d'avion? Et donc,
bonne chaîne d'amour. Ah oui, non, Virginie Monique.
Ça fait 20 minutes que je tiens le crash d'avion, vous avez vu? Alors attendez, on a fait la moitié de l'histoire.
Moi, je me casse.
Bon, je comprends, il faut quitter le projet là. Il y a un moment, il faut quitter le projet. Et donc, bah, suite à. Finalement, je sors de prison à un moment, je reste encore 48 heures à New York. Et puis, on part avec ma meilleure amie pour prendre l'avion. Et là, on attend, on prenait une compagnie qui s'appelait Tower Air, mais c'était un peu le bordel. C'était genre, tu faisais l'aller-retour New York pour 150 balles, mais. Tu savais relativement quand tu partais, fallait pas être très regardant, quoi. Et donc, on attend des heures, ce qui est rien de très grave, mais quand même des heures, encore des heures. Et puis, on nous fait monter dans un avion. Et puis là, on voit que nos sièges sont occupés. Et donc, je commence, moi, à faire un esclandre, parce que généralement, je gère ma vie à coups de gueulante, ce qui est très inefficace, mais j'apprends pas.
Ce qui est très français aussi.
Voilà, donc, je gueule. Et ma meilleure amie, qui est bien plus gentille que moi, me dit, Virginie, regarde, ils sont vieux et tout. Et les mecs me disent, non, mais il y a une erreur, vous devriez pas être là. Donc, bref, on nous évacue. On réattend pendant une plombe à JFK, et puis finalement on monte dans un avion, on rentre à Paris, et là j'arrive à l'aéroport et ma mère se jette dans mes bras en larmes en me disant « je savais que t'étais pas morte ». Oui, effectivement, et en fait le temps d'attente qu'on a eu, c'est que l'avion dans lequel on est monté en direction de Paris, lui il n'est pas arrivé.
Donc les deux petits vieux, ils sont morts?
Ouais.
Mais c'est atroce comme histoire.
Dans le Titanic. Bah,
je t'ai pas préparé.
Alors,
parce que moi, je me suis un peu attachée aux deux petits vieux au cours de cette histoire.
Mais alors, moi, du coup, on était un peu en mood Titanic. C'est-à-dire, au moins, vous êtes ensemble, c'est à la fin, ça va vite. Enfin, pardon, mais c'était un avion plein, c'était chaud, quoi. Il y a eu une époque comme ça où tous les avions sont tombés régulièrement entre New York et Paris pendant 3-4 ans.
Elle est bien cette émission, elle est bien.
Ah bah c'est toi qui as choisi, hein. c'est toi qui as géré, c'est toi le rédacteur, tu vois.
Con.
Bon, alors voilà, paix à leur âme.
Voilà, bon, enfin...
Lui vient de nous faire une François Feldman. François Feldman.
Allez, debout.
Bon vol.
Bon vol. Eh bien Virginie, reste avec nous pour encore plein d'anecdotes.
Et maintenant, c'est l'invité explosif.
Virginie de Clausade est notre invitée explosive. Nous allons parler de deux livres, De bruit et de fureur chez Plon et Femme de porcelaine chez Michel Lafond, co-écrit avec Elodie M. C'est sorti l'année dernière, Femme de
porcelaine, ouais.
C'est sorti l'année dernière.
C'est sorti en Italie il y a un mois.
Voilà. C'est pour nos auditeurs italiens. On va d'abord parler
Du coup, tu peux faire la chronique en italien, s'il te plaît. Si. Ça c'est en espagnol, ça.
Pizza.
Yolo.
Materazzi.
On va d'abord parler de celui-ci. Femme de porcelaine, c'est l'histoire vraie de la révolte des ouvrières de l'usine de porcelaine Havilland à Limoges. C'était en 1905. Alors, tu peux nous en dire plus sur cette révolte?
Eh bien, c'est la première fois que c'est la première fois qu'on organise une grève qui n'a pas de demande matérielle réelle ou de demande d'augmentation de salaire, etc. Et c'est une grève pour le droit à la dignité. Donc autant te dire que quand tu vas voir le patron en leur disant « Hey mec, le droit à la dignité !» On partait de loin, tu vois, le viol venait à peine de rentrer dans le code,
ah oui.
Tu vois. Donc bon, et donc c'est la première fois que les femmes se mettent en grève en disant, suivi des hommes, hein, parce qu'il faut savoir que le droit de cuissage, donc qui, c'est ce que je disais en début d'émission rigolant, mais qui est en fait une pratique assez française. En tout cas, de le penser comme ça, je vous rappelle que quand Dominique Strauss-Kahn a sauté sur sa femme de chambre, dans les médias français, t'avais quand même des hommes politiques qui... Larcher, je crois, c'est Larcher qui a dit ça, il me semble. Peut-être pas lui, donc dans le doute, je vais m'abstenir de citer son nom, mais qui a dit, oui, bon, bah ça va, on va pas... Non, d'ailleurs, c'était pas un homme politique, c'était Jean-François Kahn qui a dit ça. Qui a dit, bon, bah ça va, on va pas s'offusquer pour un troussage de domestique.
Ah oui,
quand même.
Donc t'es sur un truc...
Ancien temps.
Donc,
c'est voilà. Notre époque.
C'est vrai. C'est...
Domestique. Hein.
Donc tu dis, en fait, ça vient directement du droit de cuissage, qui était donc ce droit féodal qui a évidemment été appliqué, mais qui font que, bon, bah, quand t'es une gonzesse, en gros, pas de bol à la naissance, puis après, t'as pas de bol au tirage, parce qu'en plus d'avoir les métiers de merde ou tellement bien payés, tu te fais violer par le patron. Parce que c'est aussi une façon d'affirmer... bah, c'est affreux ce que je veux dire, mais c'est pratiqué de façon outrancière durant la guerre, mais c'est aussi une façon pour les hommes d'affirmer leur pouvoir sur d'autres hommes que de violer leurs femmes. Bref, peut-être un jour, on existera par nous-mêmes. Ce sera autre chose que des objets, de main en main. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que les gonzesses ont dit « Bon, bah là, on va s'arrêter », que les mecs étaient d'accord avec elles. Et ce que je trouve intéressant, c'est, un, le droit de cuissage. En fait, je suis étonnée de voir à quel point c'est pas su et pas connu, alors que on a... Bon, il y a le MeToo qui est passé dans le monde entier, mais en France, on a quand même cette tradition très française de est-ce que c'est grivois, est-ce que c'est de l'humour, jusqu'où on peut aller dans la drague, parce que quand même, à la Chirac, 5 minutes d'où je comprends, ça fait partie de notre...
du patrimoine.
Du patrimoine,
voilà. Et donc, en fait, il y a un historique sur cette façon de penser, justement, l'abus sexuel, quoi. Est-ce que ça vient imposer autrement que juste « Oh, t'es jolie, j'ai envie de toi ». Il y a une sorte de prise de pouvoir politique là-dessus. Donc ça, c'est pour le fond social. Et puis en même temps, comme ça se passe en 1905 et que moi, j'adore Balzac, j'adore le 19e siècle classique, on a fait avec Élodie une structure extrêmement romanesque avec deux sœurs que tout oppose, qui sont séparées à la naissance et qui, à un moment donné, vont se retrouver à Limoges en 1905.
Et le livre a été écrit pendant le confinement,
ouais.
Et grâce à Google Earth.
Bah déjà pour connaître Limoges, parce ouais. qu'à l'époque, on y avait... Enfin, moi, j'y avais été en salon du livre seulement. Et
tu avais vu la gare, donc.
Voilà, on avait prévu d'y aller, puis Covid, qui change les plans. Donc, merci Google, et puis surtout Google Doc. Mais ce qui avait de super, c'est que c'était quand même hardcore, ce... Enfin, moi, j'en garde à mon souvenir, mais c'était... bon, il fallait faire l'école, il n'y avait pas grand-chose à faire, là, à part applaudir au balcon. Et ceux qui écrivaient du contemporain, je comprends que ça a été très compliqué pour eux. Mais alors nous, en fait, ça a été la joie. C'est-à-dire deux ouais. heures par jour. On avait deux heures d'écriture tous les jours et on foutait le camp à Limoges en 1905, voir nos copains imaginaires. Et c'était super.
Oui, tu avais tout à dispo, des archives et tout.
C'est génial. Et puis, vraiment, le monde est arrêté. T'as que ça à faire, voyager dans le temps. Quoi. Personne ne te retient.
Arnaud a lu le livre.
Oui, je l'ai...
Un petit mot sur le livre, Arnaud.
Un petit mot. J'ai beaucoup aimé...
Deux
le...
même.
Ouais, bah, un petit peu plus. j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu drame familial, parce que c'est... Il y a aussi un drame familial, il y a aussi un petit côté policier, puisqu'il y a deux sœurs qui, doivent quitter Paris, parce que bah, il s'est passé quelque chose. Ça m'a fait penser à la série Les Combattantes, où ça mettait vraiment en exergue les femmes. Et c'est vraiment un livre que je n'ai pas encore terminé, mais que je ne saurais finir très très vite.
Très bien, très bien.
Et ouais. c'est chez Michel Lafon, pardon.
C'est chez Michel Lafon.
Femme de Fort Solène. Ouais. Et c'est coécrit avec Elodie M.
Il y a une meuf qui perd son nez dans le livre.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est arrivé comme as, quoi.
C'est vendu.
Je suis arrivé là. L'info est arrivée comme as. On s'y attendait.
C'est le quatrième de couverture.
Pour ça, faut l'acheter. Et puis, il y a un autre livre, c'est sur Thierry Leluron, De bruit et de fureur, toujours disponible, ça c'est chez Plon. Alors, c'est pas que sur l'imitateur.
Non, à l'origine, je voulais faire une bio du sida.
C'est vrai, c'est parti de là le.
Je voulais faire une biographie du virus.
Et alors, comment t'es arrivé sur Thierry Leluron ?
Bah parce que.
Parce que je te cite, ça t'excitait pas du tout. Je parle de Thierry Leluron. Ouais.
Non, je trouvais ça ringard. Ouais. Je pensais qu'il était ringard. Parce que je voulais écrire sur le tout début de l'épidémie du sida, où on connaît quand même beaucoup mieux le sida dans les années 90 que ce moment où. C'est quand même fou. Quand... Bah, un peu comme on a vu avec le Covid, mais c'est quand même. Et un truc que moi je trouvais hyper étonnant, c'est. Il se passe rien, enfin rétrospectivement en fait il se passe, mais t'as cette impression qu'il se passe rien, puis un jour t'as un mec qui arrive dans un hosto, et de ce jour-là, tous les jours, partout, il y a des mecs qui arrivent dans l'hosto, c'est quand même un truc fou quoi. Donc je voulais raconter ça, et ce moment avant de savoir comment, ce qui se passe quoi, enfin, où il y a tout à faire. Et comme je viens d'une famille qui produit du spectacle, mon oncle m'a dit, avait travaillé avec Thierry, et m'a dit mais pourquoi,
donc c'est
Hervé Hubert qui avait été son manager. Son dernier manager, il me dit mais pourquoi tu n'écris pas sur Thierry ? Et donc c'est là où je dis bah, quand même. Et il me dit non mais écoute, et donc il me raconte l'histoire de Thierry. Je fais il y a une histoire, mais bon c'est un peu touchy. Moi ma famille avait, j'ai toujours su qu'il était décédé du sida, mais ils avaient pas parlé parce que la famille de Thierry parlait pas. Et puis en fait la sœur de Thierry a écrit un livre sur le fait que Thierry était mort du sida. Lynn Renaud a écrit un bouquin aussi où elle en parle. Ils ont fait des Un jour, un destin où tout le monde en parle. Donc, du coup, on a dit, bah, en fait, il se trouve que comme Thierry n'avait pas vraiment révélé son homosexualité, parce qu'on était aussi, enfin, dans une époque où on révélait pas son homosexualité, en gros, vous faisiez ce que vous vouliez dans votre chambre à coucher. Mais donc, comme quand le sida est arrivé et qu'il tombait malade, bah, il y avait des étapes de conversation qui avaient, c'était compliqué de prendre le chemin, le train en route, surtout pour un truc où tout le monde avait peur, les gens pensaient que, enfin, vraiment, hein, les gens, c'était des pestiférés, hein, les malades du sida. Donc,
surtout, à l'époque, on appelait ça le cancer gay, d'ailleurs.
La peste gay, ouais. Et donc, Thierry a eu cette maladie. En fait, ça va très vite. Et il se trouve que, bah, à ce moment-là, il y avait mon oncle et mon grand-père qui étaient à ses côtés. Et donc, j'ai raconté cette histoire en remontant les archives familiales, parce qu'évidemment, il y a le souvenir de tonton, mais là, je m'apprêtais quand même à prendre un truc un peu touchy, quoi. Donc, il faut faire les choses respectueusement.
Lorsque tu parles de tonton, tu ne parles pas de Mitterrand.
Non, un autre.
Parce que c'était l'époque, c'est pour ça que je...
Et en fait, les archives sont folles, parce que la presse raconte un autre Thierry. C'est ça que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on a reconstruit une image de Thierry Leluron, parce que la presse en parle de façon beaucoup plus rock'n'roll. Lui dit qu'il a pris de l'héroïne, qu'il est avoilé à vapeur, que quand il apprend qu'il a le sida, qu'il sort de l'hôpital, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir Paris Match et de dire « je n'ai pas le sida, ce n'est pas la peine de venir cracher sur ma tombe ». Enfin, truc, le mec est... Et il devient de plus en plus politique à mesure que son angoisse de la maladie et la maladie gagne du terrain, quoi. Et alors, c'est une psychologie, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi, mais moi, c'est ce que j'ai compris de lui. J'ai eu l'impression que l'angoisse intérieure était tellement folle que parfois... c'est plus facile de se créer des énormes angoisses extérieures, quoi. Et que donc, ça lui a donné aussi une force pour aller taper, aller jusqu'au bout, etc., tellement c'était ingérable. Comme c'était, on a oublié d'où on vient, mais c'était monstrueux. C'est monstrueux, et des hétéros ne connaissaient pas. Donc, c'est vraiment une angoisse que les homos ont vécue entre eux, de façon indigne, parce que les gens n'étaient pas là, et on les rendait coupables, quoi. Bah, quand même. Il n'y avait qu'à pas, quoi. C'est pas possible.
En tout cas, le livre est très bien documenté, j'ai trouvé. Je ne savais pas que le Luron était tombé dans le coma. Il avait pris comme nom de... Parce qu'il est allé à l'hôpital sous pseudo. Il avait pris le nom de Closade.
Ouais. Il se cachait sous ce nom-là.
Et parle-nous de Teddy. C'était qui, Teddy ?
Alors, Teddy, c'est le chien de Thierry, qui était un chien labrador noir, avec qui était le chien de Glandu, qu'on voyait sur la scène du théâtre du gymnase.
Qui était un de ses personnages.
Un de ses personnages qui était un français fâcheux.
Un pétainiste.
Voilà, celui que tout le monde connaît, mais que personne ne côtoie, supposément. Mais et Teddy était donc vraiment le chien de Thierry. Et quand Thierry est décédé, bah, enfin, Thierry lui a dit au revoir, quoi, en lui disant maintenant il faut que tu suives Hervé. C'est donc mon oncle. Donc le chien a suivi Hervé alors que jamais il voulait suivre Hervé. Et vraiment, quand dans la nuit le téléphone a sonné pour prévenir que c'était fini, que Thierry était décédé, le chien s'est mis à pleurer. 5 minutes avant que le téléphone ne sonne. Et des années plus tard, mon oncle... Donc, il y a eu des allers-retours. Finalement, c'est mon oncle qui a gardé le chien. Et des années plus tard, quand mon oncle a produit André Lamy, et André Lamy faisait une imitation de Glandu. Et il y a une fois où Teddy était en coulisses, et il a bondi sur la scène en pensant que c'était Thierry. Et voilà. Et puis, des années plus tard, quand Teddy est décédé, ils ont voulu l'enterrer dans le...
Oui, tu le racontes, ça, dans le
caveau de Thierry, quoi, avec Thierry. Et bon, normalement, on n'a pas vraiment le droit de le faire et tout, mais le maire avait globalement donné son accord pour que, sans que ça se sache, quoi, pas très officiellement. Et puis, il y a des gens dans le cimetière qui ont vu et qui n'ont pas voulu.
Bon, pff, bande de connards.
Voilà. Et même, c'est pas moi qui l'ai dit.
Même la fin de vie du chien, tu racontes que avant de mourir, le chien, ouais, il est allé dire un peu au revoir,
ouais,
à tout le monde.
Ouais, il a posé sa tête sur le. Vraiment,
la cuisse un peu de.
Il était dans le salon, quoi, de mon oncle. Il est vraiment. C'était un vieux. Il a vécu très vieux, donc il était vraiment. Les labradors, en plus, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des super chiens, mais ils vieillissent un peu. C'est douloureux, leur, ouais, leur vieillesse au labrador. Et donc, il s'est vraiment levé difficilement. Il a posé sa tête sur le genou de mon oncle, de sa femme, de mon cousin. Puis il a été dans l'entrée. Et c'était terminé.
Voilà, tu le racontes aussi dans le livre. Mmh. On plombe un peu l'ambiance.
C'est toi.
C'est moi.
Alors faites des vannes maintenant.
Alors faites des vannes.
C'est dur là.
Virginie reste avec nous.
Gaiement.